Un marceau tout seul, c'est correct.
Open mic, open mic.
Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
Comme disait l'autre, salut Québec! Comment ça va? Bienvenue sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je vous accompagne jusqu'à 14h. Dans la première partie, c'est l'open mic avec Audrey Pinchot. On touche des sujets qui touchent les êtres humains.
Hello.
Salut. Passe un beau week-end.
Oui, ben un week-end improvisé, tiens. Mon chum est vraiment malade comme un chien. On avait plein de projets en fin de semaine qu'on a tout annulé. Fait que ça a été comme une fin de semaine où j'ai eu beaucoup plus de temps que je pensais.
Ouais. Toi, est-ce que tu étais malade avant lui? Tu y as donné, puis là, il est sur l'article de la mort, ou tu vas probablement être malade d'un prochain jour?
Ben, attends, je suis bénie du bon Dieu, là, parce que tout le monde ici est malade. J'ai rien pogné encore.
Tu es habillé en mou aujourd'hui avec des pantoufles.
Oui. Ouais. Ben, ça, je filais juste vraiment pour étirer la fin de semaine. Puis, mon chum a été solidement malade, mais tu sais, on a dormi dans des chambres séparées. J'ai dormi dans une chambre d'amis tout le week-end. Je m'ennuie de mon lit.
Pas de bec, rien?
C'est épouvantable. Non, aucun contact, là.
Pas de colleux.
La vérité, c'est que normalement, m'en sac de tomber malade. Ça me dérange pas. Moi, je préfère avoir accès à mon chum pareil. Mm. Sauf que là, j'observe ce que ça fait, cette vague-là d'influenza chez les gens, puis tu perds la voix. Puis moi, ma voix est déjà ultra fragile. Fait que je peux vraiment pas me permettre d'avoir une influenza qui me fait perdre la voix par-dessus ça.
Je sais pas, c'est ainsi de cette grippe-là là, que les gens pognent. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a un 10 roues qui lui passait dessus.
Ah, c'est pas en temps. Puis ça dure longtemps, là. Sérieusement. Et mon chum, ça fait presque une semaine et demie, là. Je sais même plus s'il est encore contagieux ou pas. Je sais plus comment gérer ça.
Ouais. Ah, moi, je sais pas, j'ai pas de conseil matrimonial à te donner.
Non, t'es correct à ce niveau-là. Mais j'ai passé une belle fin de semaine. Bref, pour répondre à ta question, ça a été très relax. Passer du temps dehors, faire du yoga, respirer, regarder des séries. Là,
ouais. Ah, j'ai vu les gars en Beauce. Je passais en Beauce samedi et dimanche. Je voyais les gars partir en motoneige. Un de mes chums qui est parti d'un chic-choc.
Tellement hot.
Ouais. Un jour, je me le promets, là. Un jour, j'irai faire un voyage de 2 semaines dans les chic-chocs à motoneige. Ça a l'air vraiment d'un beau trip. Si vous êtes capable de faire ça chaque année, je vous salue. Sachez que quand je passe à côté de vous, je vous envie. Avertissement de neige. Boy, c'est en rouge sur le site d'Environnement Canada. Moins 11 degrés actuellement sur Québec. Est-ce qu'à quelques endroits à Québec, la neige a commencé? Parce que ce qu'on dit, c'est qu'à l'aéroport international Jean Lesage, il y aurait des flocons.
Mais il y en a ici, là. Regarde, ils sont pas très forts, c'est très là, léger, mais ils virevoltent dans le vent.
Fait que c'est un moins 11 avec le refroidissement éolien. C'est une température ressentie de moins 14. Aujourd'hui, c'est des nuages. On nous parle d'un 2 cm pour aujourd'hui et un 2 cm pour ce soir, avec un minimum de... je l'ai ici. Vas-y, Yann. Moins 24 avec le refroidissement éolien. Donc, ça va être extrêmement froid ce soir et cette nuit. Pour ce qui est de demain, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse. Il y aura des rafales aussi là, ce soir et cette nuit. Ça risque de brasser. Pourtant, ce n'est pas une tempête qui est annoncée, de ce que je comprends, là. Puis, je ne sais pas si tu as lu des articles concernant la neige à Montréal.
C'est
mais
intense,
là, il y a une problématique solide. Puis les cols bleus m'ont expliqué qu'à Québec aussi, il y a une problématique beaucoup moins présente qu'à Montréal. C'est qu'avec toutes les pistes cyclables qu'on a mis à Montréal, on a rétréci la largeur des routes à Montréal. Mm-hmm. Puis en plus, il faut que les cols bleus, au travers de tous les poteaux, réussissent à tout déneiger ça.
Écoute, à travers les chars aussi.
Ils ne pensent pas, à travers les voitures, qui eux autres doivent se stationner une fois de temps en temps. Eux autres, ils ne pensent pas être capables de se débarrasser de la neige des 2 dernières tempêtes avant le mois de mars.
C'est capoté quand tu y penses, là, c'est sur une couple de semaines. T'sais, moi,
on ne parle pas de, tu sais, on parle pas d'une bourgade, là. On parle pas de, je sais pas, moi, mettons Charlebourg. Tu sais, on se dit, hey, là, tu sais, Charlebourg, il n'a jamais neigé de même. On n'a pas assez d'effectifs pour déneiger Charlebourg. Ça va prendre 3 semaines, 1 mois à ramasser tout ça. On parle quand même de l'île de Montréal. C'est la moitié du Québec. Le Montréal et les environs, c'est la moitié du Québec. Ils sont aux prises avec toute cette neige-là. C'est comme si c'était la première fois que ça tombait.
J'ai jamais
autant
été
de neige à Québec.
Aussi heureuse d'être à Québec. Pour avoir été du côté de Montréal pendant quelques années, là, on dirait que je les salue. En même temps, écoute. Là,
on est chanceux, on est en grève à Québec, puis il neige pas tant. Là.
Ouais.
Mais imagine-toi là, avec la grève, parce que moi, je l'ai remarqué tout de suite, le lendemain ou le surlendemain de quand ça a commencé. Fait que ça a commencé jeudi. Vendredi, là, je regardais l'état de la route à Val-Bélair, surtout dans mon secteur. Moi, j'habite d'Ingé. La grosse slotch à la grandeur, ça n'avait pas été ramassé. C'était dégueulasse. Là, heureusement, la nature a fait les choses. Il a fait un peu plus chaud. Fait que l'eau est partie. Là.
Oh,
elle
oui.
s'est évacuée. Mais j'ose pas imaginer ce que les gens de Montréal qui habitent sur l'île doivent ressentir. Parce que quand tu es sur Montréal, tu n'as pas besoin de voiture telle quelle.
Non.
Les voitures, c'est souvent des gens qui restent à l'extérieur de l'île ou les gens qui viennent sur l'île pour travailler ou pour visiter. Mais quand même, faut que tu te promènes ces trottoirs.
Oui, là, mais au-delà de ça, il faut que tu puisses te stationner. Les
trottoirs sont pas déneigés. Mm. Fait que là, c'est le parcours du combattant pour te rendre jusqu'à ta job si tu rentres pas tout de suite dans la bouche de métro là, pour aller prendre ton métro.
T'as-tu vu les différentes images sur les réseaux sociaux des gens qui déneigent pour essayer de trouver leur auto, puis quand ils ont terminé de déneiger, ils se rendent compte que c'est pas le genre? J'ai tellement ri en fin de semaine, là.
J'ai pas vu ça.
Des images, puis des mimes qui se promènent partout, tu sais. La neige dépasse les autos, fait que le monde gratte puis pèle pour essayer d'avoir accès à leur char puis de sortir de là. Puis c'est comme, fuck, c'était pas le mien, finalement.
J'ai une de mes amies d'enfance qui m'a écrit sur Facebook pour me montrer ce qu'elle a dû faire pour se stationner. Elle a pris la mauvaise décision. C'est une fille qui est avec son chum, puis il gagne énormément d'argent, mais il voulait rester au centre-ville de Québec sur le plateau. Au centre-ville de Montréal, excuse-moi, sur le plateau. Puis ils ont un véhicule. C'est la pire des décisions qu'ils peuvent avoir.
Mais
ils
ça dépend, j'en aurais un aussi.
Puis ils ont été obligés de caler un déneigeur pour faire une place devant chez elle pour qu'elle puisse stationner son véhicule.
Ah, mais j'en doute pas.
Ça a coûté 250 pièces. Le déneigeur, il a répondu au téléphone. Ouais, allô? Hey, salut, j'aurais besoin que tu passes là, faire une petite traîne là, pour que je puisse stationner mon véhicule à telle adresse. Parfait, moi, être là dans 2 heures. 250 pièces pour avoir une place de stationnement. Mais là, j'ai dit, c'est Anso, là. J'ai dit, Anso, quand tu vas quitter la place, qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver?
Quelqu'un d'autre va apprendre, voyons. C'est la seule affaire de déneiger dans le quartier.
Mais elle était tellement à bout de ressources qu'elle a demandé à un déneigeur de venir faire le devant de chez elle pour qu'elle puisse stationner. Je veux dire, ils sont dans le trouble à Montréal. Tu sais, ouais. C'est sans compter, je sais pas si tu as vu l'article sur les rats que je t'ai envoyé. Là.
Sur les rats?
Oui, t'as pas vu ça?
Non, j'ai pas vu ça.
J'ai envoyé ça sur la page, notre messenger de l'Open Mic. Ils ont des problématiques avec les rats à la grandeur de la planète actuellement.
Mm-hmm.
À Montréal, c'est complètement fou, les problèmes avec les rats. Tu l'as pas vu?
Bien, je le vois pas dans notre conversation. Est-ce que tu te trompes soit avec le Pit Stop ou avec Marceau le midi ou Marceau le soir encore? Dieu sait que t'es dans quelques émissions.
Le dernier article que je t'ai envoyé, c'est l'article du FEC?
Oui.
L'autre article avant, c'est quoi?
Ah ben oui, les rats.
Ah ben oui, les rats.
Et je veux juste te dire que ma page n'était pas mise à jour. Je veux juste te dire que ma page web n'était pas mise à jour.
Je parle quand même avec une fille qui est en pantoufles aujourd'hui à job. Là.
Oui, attends une minute.
Ce que je considère inacceptable dans une entreprise.
T'es habillé comme en 2008, là. Ça va
moi,
être correct.
Moi, si j'étais propriétaire de cette entreprise-là, pas de tuc et pas de pantoufles à job.
Franchement.
Pas de pyjama. J'ai déjà vu du monde se ramasser ça dans le pyjama. Là.
Ben,
je fais le pyjama.
Ben, moi, je suis pas en pyjama. Je suis jamais en pyjama. Là, mais aujourd'hui, je suis en legging.
Hein? La fierté?
J'ai beaucoup de fierté. Mais à un moment donné, tu réalises avec qui tu travailles aussi. Puis là, tu comprends, tu fais des ajustements.
Moi, Denis, Max, Jeff, on est à la mode.
Oh mon Dieu, oui. Là, t'as juste pas dit quelle année. Non, ça marche pas trop.
On vous a juste pas dit quelle année.
Vous êtes toutes sauf femmes.
Mais bref, pour en revenir au rat, tu sais, la mairesse de Montréal avait aboli, il y a de ça quelques temps, des produits pour éradiquer les rats sur l'île de Montréal.
Puis c'est le réchauffement climatique, ça.
Oui, ils se sont rapidement rendus compte qu'il y avait de plus en plus de rats. Puis à la grandeur du Québec, on a ces problématiques-là. Quand tu parles avec Samuel Genet de Bug Extermination, c'est à tous les jours qu'ils ont des calls pour les petits rats.
Moi, ça me fait peur. Là. Pour vrai, là, je souhaite pas tomber face à face avec ça. Là, t'arrêtes pas de parler de Montréal depuis tantôt. Montréal, en plus, c'est pas des petits rats, là. C'est des gigorats, là. C'est des chinchillas, en fait, là. Ils sont vraiment énormes, là.
Sont
c'est
bien
impressionnant.
Puis Sam, quand il était venu la dernière fois, on en avait parlé. Je sais pas si c'était avec toi ou avec Pascal. Mais ils ont déjà filmé une vidéo où le rat réussit à gruger le dessous de la cuvette de toilette pour rentrer dans le tuyau, pour passer à l'intérieur de la cuvette
ça, c'est
de toilette.
Mon cauchemar.
Puis il nage.
Non.
Tu sais, je sais que.
C'est mon cauchemar. Tu sais, moi, je regarde dans la toilette quand je vais aux toilettes. Hein?
Je vais me fier sur les femmes de ma vie. Là. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu 4-5. Mais il y a eu des fois où j'ai oublié de baisser le bain, puis ils se sont ramassés le péteux à l'eau. Là.
Oui.
Puis il était vraiment insulté. Ça a pris comme 2-3 jours avant que je raye du sexe. Je réussisse à leur parler.
OK.
Bon. Mais j'ose pas imaginer ce que vous devez penser une fois que vous vous asseyez.
Puis le gras,
il vient te faire un petit coucou avec sa... Tu sais, avec sa petite greffe, là. Coucou! Coucou!
J'ai même pas imaginé. Je veux juste dire que dans l'article du journal, ça, pour moi, c'est refusé là, de mettre un rat avec une trappe. Là, moi, voir un rat mort dans mon fil un lundi matin,
ouais, mais tu
c'était pas dans mes souhaits.
Tu fais comment pour les capturer?
Mais non, mais là, tu mets de la bouffe dans un seau. Il y a tellement de mécanismes sans les c'est parce que moi, j'ai eu des hamsters, puis on avait des rats, des rats de compagnie.
Joe,
quand j'étais jeune.
Ouais, Joe t'a dit des chiens Shira. Audrey.
C'est des chiens Shila.
Tu as dit que c'était des chiens Shila.
C'est des chiens Shila.
Mais
ouais.
Comme c'est des rats qui ont la grosseur des chiens Shila, elle te propose.
Des Shira.
Chien Shira.
Waouh, bravo. Plus
bonne journée, Madame Pantoufle.
Hé, elle va être longue, finalement. Je suis quand même encore en mode fin de semaine. Moi, t'as l'avoué, là. Oui, non, c'est ça. En fait, j'aimerais pas ça avoir ça chez nous, puis j'en ai pas. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus... mais je comprends que ça doit être franchement désagréable. Souris, rat, mais elle est toute dans la même catégorie. Là. Mais c'est parce que nous autres, on les avait de compagnie.
Ouais.
Fait qu'on dirait que de voir du monde tuer des rats, puis de je suis comme...
OK, t'avais des rats de compagnie.
Nous autres, moi, j'avais un hamster, puis quand j'étais jeune, en quatrième année du primaire... Ouais. Là, c'était un zoo dans la classe. Là. La prof, elle trippait bien ses animaux puis elle voulait nous ouvrir l'esprit. Là.
Uh-huh.
On avait des rats de compagnie. On pouvait les amener la fin de semaine chez nous, dans les cages avec la paille. Pis
oh,
tout,
ouais.
Là. Oui, oui, oui. Puis petites boules pour qu'ils se promènent dans la maison. Pis, fait qu'après ça, j'en ai eu.
C'est hyper dommageable pour une maison. Moi, je me souviens que quand j'ai déménagé dans ma maison à Val-Bélair, j'avais affaire avec un inspecteur en bâtiment pour qu'il puisse regarder au grand complet toute la maison puis me dire ce qui allait puis ce qui allait pas puis mm-hmm. s'il pouvait trouver des affaires que moi, je pouvais pas voir de mes propres yeux, ben j'aurais été gagnant. J'aurais même pu négocier ma maison beaucoup moins cher. Finalement, je l'ai payé trop cher. Mais dans l'entretoit, en haut, j'avais été, moi, pour voir si tout était correct, s'il n'y avait pas trop d'humidité, si la laine était bien belle. Tout était parfait. Puis lui, ça y a pris 5 secondes pour déceler des pistes de mulot dans la laine minérale.
Mon Dieu.
Puis quand il me l'a montré, j'ai dit, ben oui, toi. Puis j'en voyais plein. Tu sais, à partir du moment où il te le dit, là.
Quand tu sais, c'est quoi, ouais.
T'en vois plein. Puis finalement, on avait fait venir à bas extermination. Puis en quelques jours, là, on n'a plus eu de problème, là.
Mais eux autres, c'est quoi qu'ils font dans le fond? Ils bouchent tous les trous pour être sûr qu'il n'y a pas une petite bébite qui passe.
Il y a toujours une entrée puis une sortie. Puis ils s'organisent pour trouver l'entrée et la sortie. Puis ils règlent le problème à l'intérieur sans trop rentrer dans les détails.
Parce que. Ouais. S'il te plaît. Parce que... Non, c'est ça. Oh, arrête, Yann! Oh, tu m'énerves, j'ai envie de pleurer. Colique! Ils sont tellement cute, en plus. Voyons donc. Ça fait pas de mal à personne, cette affaire-là.
Ouais.
Mais je comprends qu'il y en a trop. Puis je comprends que ça peut être... Tu sais, là, je parle sans connaissance de cause. Là. J'en ai jamais eu chez nous. J'ai jamais eu une souris chez nous, tu comprends?
En Beauce, j'avais un voisin qui était fermier. Puis tout le monde, lui, il avait des petites problématiques des fois à la ferme. T'as des problèmes avec les petits rats, les petits mulots, les souris et tout ça. Puis il y avait deux chats qu'il avait adoptés. C'était des vieux chats. Les chats devaient avoir 20 ans, mais ils étaient tellement agressés comme des cochons que c'était des monstres. T'avais l'impression que c'était des ratons laveurs. Puis un moment donné, il y a eu une année, je pense que c'est l'année, les 2-3 années avant la pandémie, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout le monde se débarrassait de leur chat. Puis il allait porter ça directement sur son terrain.
Ben voyons donc.
Fait que là, il était rendu avec plus de chats que de mulots disponibles pour manger. Fait qu'il a été obligé de partir une genre d'adoption là, pour les chats
ouais.
qui avaient été abandonnés
oh,
chez eux. Parce qu'à un
Dieu.
Moment donné, les chats, ils font leurs besoins à l'intérieur de la grange. Là, pis...
C'est un bon humain, par exemple. Là, au moins, ils s'en sont débarrassés.
C'est un maudit bon gars. Puis lui, il avait des granges, il avait des poulets. En tout cas, il y avait du stock là, sur son terrain. Mais il y avait deux gros chats qui faisaient la job depuis des années. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à se débarrasser de leur chat, mais
c'est vraiment ça qu'une armée.
Oui, qui envoyait ça directement sur le terrain. Comme pour aider l'agriculteur, mais lui, il était comme à bout, là, parce que tout le monde confiait les chats. Tu connais-tu Rénal Duberger?
Non.
Lui, c'est un sismologue. Il a fait plusieurs choses, là, M. Duberger. Je l'avais en collaboration pendant quelques années. C'est drôle comment la vie est faite, hein, mais moi, j'avais des problématiques avec des marmottes.
OK.
Mon ancienne belle-mère avait énormément de foyers de personnes âgées à la grandeur de la ville de Québec. Là. Puis sur ses terrains, elle avait des problèmes de marmottes. Fait qu'elle a demandé à son gendre, qui avait de l'air vraiment ça coche pour ce qui est de chasser les marmottes. Et j'avais été chez Canadian Tower, puis j'avais acheté les fameuses cages là, pour pogner des marmottes. Puis ce que je faisais, c'est que le soir, quand les résidents n'étaient plus là, j'amenais les cages, je mettais de la salade là-dedans, puis le lendemain, je repassais, je ramassais les cages, il fallait que j'aille domper les marmottes. Mais moi, j'étais un ami des animaux. Tu comprends?
Tu as dompé les marmottes.
Ouais, j'étais un ami des animaux. Fait que, tu sais, il y en a qui pourraient faire des affaires épouvantables comme aller les crisser dans une rivière, attendre que le temps fasse son œuvre, puis après ça, mettre la marmotte de côté puis repartir avec la cage. Moi, là, j'ai été porter ça à Montagne, pas à Montagne des Roches, aux Trois-Sauts, excuse-moi, à Beauport.
Pour qu'ils vivent.
C'est un ancien, ouais. C'est un ancien camping d'Hydro-Québec. Là, ça a été vendu, puis il y a plein de résidents qui commencent à s'établir dans ce secteur-là. Mais je dois avoir apporté...
Pour saluer ces résidents-là, s'il y a des marmottes partout sur leur terrain.
Je dois avoir apporté à peu près une centaine de marmottes dans ce secteur-là, juré. Au moins une centaine. J'ai fait des voyages là, à n'en plus finir pour essayer d'éradiquer toutes les marmottes qu'il y avait dans le secteur. Puis je ne sais pas pourquoi, mais il y en avait en sacrement dans le secteur de Vanier. Okay? Fait que quelques années plus tard, je me ramasse à Radio de Québec. J'ai un collaborateur qui s'appelle Rénal Duberger, un gars hyper sympathique. Puis c'est un géologue, excuse-moi. Et...
Non, t'avais raison, sismologue.
Sismologue et géologue aussi. Ouais. Il commence à me parler de sa problématique de marmotte. Il dit, Yann, je sais pas ce qui est arrivé les dernières années, mais moi, là, je t'envahis par les marmottes. J'ai dit, moi, à Vanier, mon ancienne belle-mère avait des problèmes de marmotte, je t'habite où? Il dit, aux Trois-Sauts.
Ah, que c'est bon, ce show-là. Tu dis, j'espère
que
tu
oui, j'ai dit.
Ah, que c'est bon,
j'ai dit,
ce
c'est là que j'avais dompé marmotte à ma belle-mère.
Oh, c'est drôle. Mais je sais qu'on n'a pas le choix de trouver une façon de se débarrasser des rats et de ces bibites-là. Mais j'ai tellement de misère. Là. C'est comme les cerfs à Longueuil. Moi, ça m'a brisé le cœur bien raide. Là. Quand, au lieu de les déplacer, tu comprends, de leur trouver un autre endroit pour vivre, on a décidé juste de les tuer. J'ai de la misère avec ça dans ma tête. T'sais. Je comprends qu'on en a trop. Là.
Ouais. Mais c'est pas juste ça. C'est que les cerfs s'étaient reproduits entre eux.
Ouais.
Ce qui fait en sorte que, comme dans certaines régions du Québec, là, quand les gens se reproduisent trop entre eux, peut avoir des problématiques au niveau du sang, puis ça développe des maladies. L'acidose lactique étant une maladie qui vient du fait qu'il y a des gens qui se sont reproduits qui avaient à peu près le même sang, sans trop rentrer dans les détails.
Oui, puis je sais qu'ils ont évalué, là, ils l'ont dit qu'ils ont évalué les possibilités de les déplacer, mais encore là, les déplacer, exact. Ça peut créer d'autres problèmes parce qu'ils ne sont pas faits pour être déplacés.
C'est ça. Puis
c'est très pareil.
En jasant avec Martin Bourget, il m'avait expliqué que les cerfs s'étaient reproduits entre eux dans ce petit parc-là, ce qui faisait en sorte que de libérer ces cerfs-là dans la nature, ça aurait peut-être pu apporter d'autres maladies à d'autres cerfs.
D'autres animaux,
par la suite, moi, j'ai dit, mais pourquoi on les a pas endormis, puis après ça, les avoir déplacés? Puis ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il y avait une problématique que le cerf pourrait tellement être stressé qu'il pourrait juste crever complètement.
Oui, bien c'est ça, qu'au final, ça reviendrait au même. Non, mais je sais qu'on n'a pas le choix à un certain point. Là. Je suis consciente, je pense juste que... Je sais pas, c'est triste de penser que c'est ça la finalité, tu sais.
Exact.
Pareil avec les rats.
On a fait une bonne run. On est passé de...
Est-ce que vous nous avez suivis?
On est passé de la neige aux rats, aux marmottes.
Oui. Au hamster, au cerf.
Ouais, c'est ça.
Si vous avez d'autres animaux à nous proposer, 88-971.
Suivez-nous. Hey, tantôt, on jase avec Ali Ndiaye, qui est, qu'on appelle Webster à Québec. C'est un gars de Québec qui est historien, conférencier. C'est un rapper aussi. C'est pour ça qu'on l'appelle Webster.
De
c'est
Limoilou.
Son nom de rapper. Et c'est un gars qui connaît l'histoire des Noirs au Québec sur le bout des doigts.
Oui.
Pour les gens qui ont eu la chance d'avoir des conférences de Webster sur l'histoire des Noirs, c'est incroyable à quel point on n'est pas informé sur ce phénomène-là qu'on a connu au début de la Nouvelle-France. Tu sais, c'est 1608, là, la création de la Nouvelle-France, ben, de Québec, en fait, de mémoire. Et les Noirs sont arrivés, le premier esclave noir est arrivé en 1628 ou 1629. Puis il y a eu des personnages marquants aussi là, qui ont marqué le Québec, qu'on va vous rappeler tout de suite quand on va jaser avec Ali Ndiaye, alors alias Webster.
On est très peu éduqués, puis j'ai hâte à cette entrevue-là. Puis, tu sais, quand on fait des entrevues dans l'open mic, généralement, on sait un peu de quoi on parle. T'sais, on reçoit un invité, on s'éduque, oui, mais on est très, très à l'aise avec les sujets. Puis moi, j'ai pas le choix de t'avouer, Yann, que ce matin, je me sentais un peu... J'ai beaucoup, beaucoup lu dans les derniers jours parce que je me sentais un peu niaiseuse. Il me manquait clairement des bouts dans cette histoire-là. Puis je me suis rendu compte à quel point, même à l'école, ben on n'a pas tant appris que ça sur l'esclavagisme, l'histoire des Noirs, tout ce qui vient avec, finalement, puis où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment il va nous simplifier ça, finalement. Puis si vous avez des questions, 88-971-1021 par texto.
Pour l'instant, on vous pose dans vos oreilles coriace avec Jamais Jamais sur Boulevard. S'il y a quoi que ce soit, communiquez avec nous. Faut jamais dire jamais. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. On vous en parlait tantôt. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est un sujet où on va en apprendre un peu plus sur l'histoire de Québec. Les événements qui vont nous être rapportés se sont bel et bien produits à Québec. Et pour les besoins de l'entrevue, moi et Audrey, on a travaillé extrêmement fort. On est allé se remémorer des trucs ou apprendre des trucs qu'on n'avait jamais vraiment entendu parler. Moi, j'avais assisté à une conférence de Webster, fait que j'avais déjà une bonne base là, sur ce que Webster va nous raconter. Mais bon Dieu, qu'à chaque fois que je retourne dans ces lectures-là, ça me fascine à quel point ça nous a jamais été rapporté à l'école, alors que c'est des sujets qui sont hyper importants. On va l'accueillir tout de suite. Son nom, c'est Ali Ndiaye, alias Webster, qui est un historien, qui est conférencier et c'est aussi un rapper. On parle du mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs. Salut Webster!
Hey, salut, ça va?
Ben oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment t'en es venu à t'intéresser à cette histoire-là, toi?
Ben, tu vois, moi, depuis que je suis tout jeune, je suis intéressé par l'histoire. Puis je te dirais, le début de l'adolescence, l'histoire noire m'intéressait beaucoup.
Ouais.
Puis, tu sais, au début des années 90, là, on se rappelle le film de Malcolm X qui était sorti par Spike Lee. Puis, tu sais, je lisais beaucoup à ce sujet sans savoir qu'il y avait une histoire noire à Québec puis au Québec. Donc, ce que je lisais, c'est Malcolm X, les Black Panthers, Rosa Parks, Martin Luther King,
ouais.
Mais toujours d'un point de vue américain. Puis, j'ai étudié en histoire à l'université et jamais qu'on m'a parlé d'une présence noire ici qui a presque 400 ans, tu sais. Mm. C'est en sortant de l'université que je suis tombé là-dessus. Puis, je me suis dit, mais attends un instant, faut en parler. Ça n'a pas de bon sens que je sois intéressé par l'histoire noire depuis longtemps et que j'ai même jamais connu cette présence noire ici. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça.
Écoute, quand j'avais assisté à une de tes conférences, moi, j'avais appris plein de choses. Puis, si je me trompe pas, tu vas être là pour me le rappeler, mais est-ce que c'est les parents de Malcolm X qui se sont rencontrés au Québec?
Oui, exact, à Montréal.
Ouais?
Oui, oui. C'est fou, ça. Il n'y a pas de Malcolm X sans le Québec puis Montréal.
Alors, tu vois, c'est des choses que je ne savais
pour,
pas.
Pour donner une idée aux auditeurs, dans la période entre 1629 et 1834, c'est plus de 4185 esclaves au Québec jusqu'à l'abolition de l'esclavage là, en 1835, si on parle de cette portion-là. Puis on dit qu'il devait y avoir au moins 10 000 personnes en esclavage pour le Canada, dont justement une grande partie sur le territoire actuel du Québec. C'est des chiffres, moi, que je ne connaissais pas du tout, là. Puis Yann, tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est pas des affaires qu'on nous apprend à l'école non plus.
Non, nous autres, on nous parlait de l'histoire des Premières Nations, comment les Blancs sont arrivés, comment les Blancs ont été aidés par les Premières Nations pour guérir certaines maladies et tout ça. Puis après ça, on en connaissait un peu plus sur les civilisations des Premières Nations, mais l'histoire de l'esclavage, ça, on dirait qu'ils ont fait abstraction de ça. Peut-être parce qu'on s'en veut aujourd'hui que ça se soit passé chez nous. On a toujours l'impression qu'aujourd'hui, avec l'éducation qu'on a, que jamais on aurait pu faire une affaire comme ça. Puis ce que je vois, c'est que Québec, c'est plus de 400 ans d'histoire, mais l'histoire de l'esclavage aussi, ça a commencé, là, tout ça, 400 ans, c'est 1628, Webster?
Oui, ben 1628, 1629. Et en fait, pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport au fait qu'on ne connaît pas cette histoire-là, il y a plusieurs éléments. Notamment, il n'y a pas eu beaucoup de gens en esclavage. Quand on parle de 4185, 10 000 ou même 15 000 personnes, ce n'est pas beaucoup comparé, admettons, aux États-Unis, aux Antilles ou au Brésil. Donc, ça a contribué à l'oubli. Mais il y a aussi le fait que nos historiens au 19e siècle, comme François-Xavier Garneau, ont nié l'esclavage ici. Garneau, quand il a fait sa grande histoire du Canada, il a commencé par nier ça. Puis ses contemporains lui ont reproché, tu sais. Puis il y a le fait que notre proximité avec les États-Unis, où est-ce que tout est toujours plus gros, tout est toujours plus intense, ben quand l'esclavage a disparu ici, ben c'était facile de dire, écoutez, on n'a pas d'esclaves ici, regardez aux États-Unis, ça c'est l'esclavage, tu sais. Donc tout ça fait qu'on a oublié ce 400 ans d'histoire-là. Comme tu l'as nommé, dès 1628, 1629, on a une présence africaine ici. Un jeune garçon qui allait recevoir le nom d'Olivier le Jeune. On s'entend que ce n'est pas son nom africain, c'est un jeune qui est né soit en Afrique de l'Ouest ou à Madagascar, qui est arrivé avec les frères Kirk lorsqu'ils ont pris Tadoussac en 1628 et Québec en 1629. Donc, et ce jeune homme a été vendu à un homme dans la colonie qui lui l'a donné à Guillaume Couillard. Et donc ce jeune homme est resté ici en Nouvelle-France jusqu'à son décès en 1654. Et donc dès les débuts de la colonie, on a une présence noire ici, et ce jeune homme arrive en tant que personne en esclavage, en tant qu'esclave.
Est-ce que Mathieu d'Acosta était perçu comme un esclave? Il était celui qui était l'interprète de Samuel de Champlain. Comment il était perçu, lui?
Mathieu d'Acosta, le mystère d'Acosta, si je peux dire, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet, mais on sait que très probablement qu'il a accompagné Samuel de Champlain lors de sa première tentative de colonisation en Nouvelle-Écosse, ce qui allait devenir Port-Royal. Et ça, c'était en 1604. Il retourne en 1605 en Europe et il signe un contrat pour participer à la fondation de Québec en 1608. Donc, d'Acosta, le fait qu'il signe un contrat veut dire qu'il n'était pas en esclavage. Et il était bien payé pour ça. T'sais, il était payé mieux que les marins à bord, là. Il y avait l'équivalent du salaire de l'apothicaire, comme le pharmacien, si on veut, qui les accompagne. Donc, d'Acosta, il vient pas ici parce qu'il est emprisonné au Havre pour insolence. Tu vois, donc il était supposé de venir, il signe un contrat. Finalement, ben, il ne peut pas honorer son contrat parce qu'il est en prison pour insolence. Donc, ce qui fait dire qu'il ne devait pas être en esclavage. Il était payé pour, puis il avait du caractère en plus parce que on l'emprisonne pour
Et
ça.
pourquoi on appelle ça le mystère d'Acosta?
Ben, parce que on sait pas. Il y a des informations qui manquent. C'est-à-dire que on sait qu'il aurait accompagné Champlain en 1604 vers Port-Royal, mais on ne sait pas comment est-ce qu'il retourne en Europe. Mais on sait qu'en Europe, les Français puis les Hollandais vont se chicaner pour pouvoir le récupérer parce qu'ils travaillent avec les Hollandais à un moment donné. Ils les auraient accompagnés dans le golfe du Saint-Laurent. On sait qu'ils parlaient français, portugais, hollandais et Mi'kmaq, qui est une langue autochtone. Donc, il y a encore beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas à propos de cette personne-là.
Qu'est-ce qui distingue, bien, qui distinguait en fait les Noirs libres des esclaves?
Pas grand-chose, souvent c'est un bout de papier, parce que c'est des gens qui parfois ont été en esclavage, à qui on a donné la liberté, des gens qui ont été à liberté, en liberté, qui ont été capturés, achetés, vendus. Donc il n'y a pas grand-chose qui les distinguait. Et on le voit dans le nord des États-Unis, et on l'a vu en Nouvelle-Écosse, des personnes noires libres qui se faisaient enlever pour être vendu en esclavage, admettons dans les Antilles ou aux États-Unis. Tu sais, le film là, 12 Years a Slave, l'histoire de Solomon Northrop qui a été. On l'a attiré, on l'a saoulé, s'est réveillé dans une plantation dans le sud. Ben, c'est arrivé ici aussi, notamment en Nouvelle-Écosse, en Ontario aussi. Il y a des fois des chasseurs d'esclaves qui traversaient la frontière jusqu'au Canada pour essayer de capturer des gens.
Puis qui possède des esclaves à l'époque? C'est qui les gens qui achètent des esclaves?
Ici, c'est souvent les membres de l'élite, si on veut, parce que ce sont des produits, entre guillemets, là, on s'entend que ce n'est pas des produits, mais ce sont considérés comme des produits, comme
Des
des biens
biens.
meubles. Exact, ce sont des gens qu'on achète, qu'on vend, qu'on donne, qu'on lègue, qu'on loue, qu'on échange, et qui coûtent assez cher. C'est-à-dire qu'une personne autochtone en esclavage vaut en moyenne 400 livres. Une personne noire en esclavage vaut en moyenne entre 900 et 1000 livres. Et donc, 400 livres équivaudraient à un peu plus de 4 000 $ aujourd'hui, si je ne me trompe pas. En fait, là, les dernières vérifications que j'ai faites, c'était ça. 900 livres équivaut à environ entre 9 000 et 10 000 $ aujourd'hui. Donc, c'est l'élite marchande, commerciale, qui peut se les procurer. C'est l'élite militaire, politique et religieuse. Et ce qui est fascinant ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens en esclavage, mais on a beaucoup de nos toponymes. qui sont liées à l'esclavage. Des noms de rues, des noms de municipalités, des noms de bâtiments, comme admettons, vous allez sur la terrasse du Frein, vous allez au château Frontenac. Frontenac avait une esclave autochtone. Vous voulez aller sur la rive sud de Montréal à Longueuil. La famille Longueuil est une des familles qui en a eu le plus. La municipalité de Beauharnois, Rigaud, Vaudreuil, c'est des gouverneurs généraux qui ont eu des esclaves. Marguerite Duville, la place Duville, Marguerite Duville en a eu, la mère supérieure des Sœurs Grises. Et donc, puisque pendant longtemps, nos toponymes ont été influencés par les membres de l'élite, eh bien, c'est les membres de l'élite qui pouvaient s'en procurer. Donc, il n'y a pas un endroit au Québec où est-ce qu'on passe pas sur une rue qui a eu un lien avec l'esclavage, du moins un nom qui était en lien avec l'esclavage.
C'est intéressant, ça, j'avais aucune idée. Ali, c'est vraiment une drôle de question. Là. J'en parlais avec Yannick tantôt, mais moi, j'ai l'impression que j'ai été peu éduquée sur le sujet. Puis ça va être drôlement formulé, mais comment les Noirs sont devenus des esclaves? Comprends-tu ce que je veux dire? Si on revient à la base, la base, j'ai de la misère à comprendre comment tout d'un coup on a décidé que, ben, entre les humains que nous sommes, les Noirs vont être ceux qui vont nous servir?
C'est une... La réponse va être un peu longue.
C'est correct, mais, je suis intéressée.
OK. Bon. Ben, parce que l'esclavage a existé sur tous les continents et à toutes les époques. C'est-à-dire qu'il y a de l'esclavage encore aujourd'hui. Mais l'esclavage qu'on associe aux Noirs, qu'on appelle l'esclavage transatlantique ou l'esclavage racial, va prendre une forme particulière. Parce qu'admettons, tu prends l'esclavage à l'époque romaine. Ben, les gens ne sont pas en esclavage parce qu'ils sont Noirs. Ils sont Noirs, ils sont Blancs, ils sont en esclavage parce que c'est un statut. On t'a battu à la guerre, t'es en esclavage, t'arrives pas à payer tes dettes, ben on te vend en esclavage. Et... quand les Portugais, dans les années 1400, vont commencer à explorer la côte ouest africaine, le pape Nicolas V va produire une bulle disant « Écoutez, vous avez le droit de réduire en esclavage les non-chrétiens. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens que vous rencontrez, vous pourrez les réduire en esclavage. » Et donc, les Portugais vont croiser, notamment au large du Sénégal, en 1443-44, des Africains qui vont ramener en esclavage au Portugal. Et donc, tranquillement, on va ramener des gens comme ça. Donc, l'esclavage transatlantique commence, mais de l'Afrique vers le Portugal. Donc, 1492, Christophe Colomb arrive dans les Amériques. Les Autochtones qu'il rencontre, il va les réduire en esclavage. Il va les envoyer en Espagne pour être réduits en esclavage. Et donc, quand les Européens amorcent la colonisation des Amériques, ils vont commencer par réduire en esclavage les Autochtones. Pas parce qu'ils sont bruns ou non blancs, mais parce qu'ils ne sont pas chrétiens, qui appartiennent à des civilisations différentes, des modes de vie, des modes de production différents. Mais les Européens amènent des maladies auxquelles les Autochtones n'avaient pas été exposés, ce qu'on appelle le choc bactériologique ou microbiologique. Et 95% de la population autochtone est décimée. 95% de la population des Amériques est décimée par les maladies, les massacres, les génocides, l'esclavage. Et au même moment, dans les années 1500, tu as l'évêque du Chiapas au Mexique, qui s'appelle Bartolomé de las Casas, qui dit, il veut prendre le côté des Autochtones, il dit, ces gens pourraient avoir une âme, il ne faut pas les réduire en esclavage. Donc, à l'époque, les gens disent, OK, mais qui va cultiver nos terres? Et las Casas va dire, ben, les Africains, on sait qu'ils n'ont pas d'âme. On avait déjà amorcé le transport d'Africains vers les Amériques tranquillement. Et ça, à partir de ce moment-là, ça va prendre un boost. Où est-ce qu'on va de l'Europe descendre en Afrique, on va amener des produits comme des armes, des outils, des étoffes, de l'alcool qu'on va échanger, qu'on va donner, qu'on va vendre. On va enlever, acheter des Africains, les échanger, qu'on va amener vers les Amériques pour être réduits en esclavage, qui vont produire, qui vont cultiver des produits, du sucre, du coton, du tabac, du café, de l'indigo, du riz, vont être dans les mines, extraire de l'or, de l'argent, qu'on va envoyer tout ça en Europe pour être transformé. Ah, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on voit à l'école, ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Mm-hmm. Et donc, il y a cette proximité géographique-là, et il y a bien sûr cette question économique-là qui est très importante. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver beaucoup d'Africains en esclavage, 12,5 millions d'Africains. Et ensuite, c'est comme ça que vont naître les théories raciales. Où est-ce que là, parce que la notion de race est nouvelle dans l'histoire de l'humanité, elle ne date que des années 1700. Avant les années 1700, les gens ont des biais, des préjugés, mais ce n'est pas érigé comme un système. Ça va accompagner l'esclavage transatlantique et va laisser une empreinte avec laquelle on vit encore aujourd'hui.
On sait qu'en Nouvelle, voyons, Nouvelle-France, bon, Nouvelle-France, on sait qu'en Nouvelle-France, on pratiquait l'esclavage. Est-ce que les Autochtones ont participé aussi à l'esclavage ou il y a seulement des Autochtones qui sont devenus des esclaves?
Oui, ben, ils ont participé aussi dans le sens où c'était des réseaux. C'est-à-dire que l'esclavage existait chez les personnes autochtones avant la présence européenne, comme que l'esclavage existait sur tous les continents, mais avec des particularités différentes. Chez les Autochtones, les Premières Nations de l'Amérique du Nord, souvent l'esclavage était lié à la guerre et au repeuplement de villages. C'est-à-dire qu'on s'en va à la guerre, puis les gens qu'on prend en esclavage, on va les intégrer au village pour pouvoir repeupler. Et ce n'est pas un statut qui se transmet de génération en génération. C'est-à-dire qu'une personne est en esclavage, mais ses enfants vont faire partie du village, vont avoir un statut comme tous les autres. Quand les Français vont s'installer en Nouvelle-France, ils sont loin du réseau d'approvisionnement en Africains ou Afro-descendants qu'on veut réduire en esclavage. Hein. Les bateaux négriers ne se rendent pas jusqu'ici parce que c'est trop loin. Donc ici, on va les commander, on va se déplacer pour les acheter, mais ils arrivent au compte-gouttes. Tandis que la Nouvelle-France, elle est connectée au réseau diplomatique et commercial autochtone à travers les Grands Lacs. Donc, il est plus facile de faire venir des captifs autochtones pour les réduire en esclavage ici, mais avec la mentalité de plantation de l'esclave-objet dont le statut se transfère de génération en génération. Donc, les Français s'installent, se connectent au réseau autochtone, mais y importe la manière de vivre et de voir l'esclavage.
J'ai envie de te demander, Ali, à quel point, ben en fait, à quel moment on a une première trace législative de l'esclavage ici? Tu sais, à quel moment, on a décidé qu'on définissait justement que les esclaves étaient des biens, on en a parlé un peu tantôt, donc n'ont pas de droits? Parce que ce que je remarquais à travers mes lectures dans les derniers jours, c'est que là, on donne des chiffres, mais c'est toujours approximatif parce qu'il y a un moment où on n'avait pas de trace de tout ça, là.
Absolument. Donc, les chiffres, effectivement, sont approximatifs. Et c'est une bonne question là parce que c'est encore débattu. C'est-à-dire que dès 1680, on a des traces où le gouverneur de la Nouvelle-France écrit au roi de France pour nous donner le droit d'importer des personnes pour les réduire en esclavage. Mais comme je vous dis, on est loin des réseaux, donc ce n'est pas évident de faire venir les bateaux ici. La première trace législative, c'est en 1709, l'ordonnance de l'intendant Rodeau du 13 avril, qui stipule que tous les esclaves noirs et autochtones qui ont été achetés vont être maintenus en esclavage. Donc, c'est la première trace législative. Il y en a une autre en 1736 par l'intendant Hocquart qui stipule que si on veut affranchir une personne en esclavage, il faut le faire devant un notaire. Et ce qui est particulier, c'est que l'esclavage commence à disparaître ici à la fin du 18e siècle, notamment parce qu'un juge, le juge James Monk à Montréal, réalise qu'il n'y a pas de loi en lien avec l'esclavage ici. Et donc, on va revenir vers les intendants, c'est-à-dire, hey, regardez, l'intendant Hocquart, l'intendant Rodeau, ils ont produit des ordonnances, donc il y a une base législative, non? Puis,
C'est-tu de là que vient le code noir?
Non, le Code noir a été publié avant 1685 pour les Antilles françaises, un autre qui a été publié en 1724 pour la Louisiane, un autre parce que c'était des codes noirs qui étaient localisés. Le Code noir n'était pas appliqué ici. Les
OK.
gens avaient à l'esprit le code noir, mais ce n'était pas appliqué ici parce qu'il devait être écrit pour des lieux en tant que tels. C'était régionalisé. Et donc, ici, il n'y avait pas de loi formelle. Et la question qu'on pose, en fait, c'est est-ce que l'intendant Rodeau avait le pouvoir de légiférer sur une chose comme l'esclavage? C'est comme de vouloir inventer une nouvelle peine de mort, dire, bon, ben écoute, t'as volé de quoi? Ben, on va te mettre dans une boîte, on va mettre le feu, admettons. L'intendant n'a pas ce pouvoir-là. Et donc, il y a un certain pouvoir, mais il aurait outrepassé ses pouvoirs en publiant une ordonnance donnant un cadre légal à l'esclavage ici. Et c'est ce qui est reproché d'un point de vue législatif à Rodeau. Et donc, est-ce que l'esclavage était légal ou pas? Eh bien, les juges, à la fin du 18e siècle, ont décidé que c'était un esclavage de fait d'habitude, mais qu'il y avait un vide juridique. Et c'est ça qui va contribuer à la fin de l'esclavage ici.
Ouais, d'autres trucs factuels. En 1911, il y avait une vague d'immigration noire qui provenait de l'Oklahoma. Et il y a des Canadiens qui ont mis de la pression sur le gouvernement de l'époque. C'était Wilfrid Laurier qui était là. Mmh. Et on a passé une loi pour empêcher l'immigration noire. Et on payait même des médecins pour refuser des Noirs pour diverses raisons. C'était si tu réussissais à refuser un Noir en disant « ben regardez, cette femme-là est enceinte, donc on peut pas l'accueillir chez nous », ben le médecin il recevait 5$ de la part du gouvernement, qui était une petite fortune à l'époque.
Ben voyons donc.
Juste pour refuser la candidature d'immigrants légaux.
Absolument, parce qu'au début du 20e siècle, les chefs d'immigration sont hiérarchisés. C'est-à-dire qu'on veut faire d'abord venir des Européens de l'Ouest, ensuite, des Européens de l'Est, des Européens du Sud, puis bon, vous comprenez qu'il y a une hiérarchie, puis on descend, puis c'est qui est dans le fond de la pyramide, vous le savez déjà, c'est qui. Et donc, on ne veut pas avoir l'immigration noire ici, et on ne veut pas passer de loi comme on a fait pour empêcher l'immigration indienne, et un peu plus tard, l'immigration asiatique. Donc, parce qu'il y a un bon électorat noir, donc on instaure des mesures pour juguler l'immigration noire ici. Donc, on va effectivement commencer par des tests médicaux. Et on va payer les médecins 5$ par dossier refusé. Et les gens sont refusés, comme tu l'as dit, parce que la personne est enceinte, parce qu'elle est myope, parce qu'elle a des varices. Donc, c'est des choses qu'on
Mon
a
Dieu
vues.
Mon Dieu Seigneur!
Mais on va aller plus loin encore. On va demander aux compagnies de chemin de fer d'augmenter le prix de billets de train pour les personnes noires. On va passer de 20$ à 200$. On va même payer des leaders communautaires aux États-Unis, comme des pasteurs ou des journalistes, pour convaincre les Noirs de ne pas immigrer ici. Mais, par exemple, on va quand même les faire entrer pour du cheap labor. Donc, on va en faire entrer quelques-uns pour travailler dans les usines ou notamment pour travailler comme porteurs sur les chemins de fer. Hein, les gens qui sont dans les wagons-lits, qui font les lits, qui servent les repas, qui cirent les chaussures, etc.
Tu sais, Audrey, à quel point j'aime les vétérans,
ouais.
J'aime les militaires. On parle souvent du 11 novembre, puis je pense qu'une journée pour eux, c'est pas assez. Il faut se souvenir d'eux 365 jours par année. À la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Noirs qui ont été envoyés au front, qui se sont battus avec leurs frères d'armes qui étaient blancs. Et quand ils sont revenus ici, ne serait-ce qu'en Amérique, ben ils s'assoyaient au restaurant en tenue militaire. Après la guerre, là! On a gagné la guerre, s'assoyait ici en tenue militaire et il n'y a pas de serveur ou serveuse qui allait voir ces gens-là. Alors qu'eux se sont battus pour leur pays, ils ont risqué leur vie.
C'est capoté. C'est fou, là, parce
que... Ça fait
que
pas
je
si longtemps
tellement...
que ça,
non,
là.
Mais c'est ça, puis en passant, on était avec Ali Ndiaye, qui alias Webster, pour les gens qui le connaissent, qui est historien, qui est conférencier, qui est rappeur aussi, t'as quand même une carrière musicale derrière la cravate, pour nous parler du mois des Noirs, puis j'ai pas le choix de te dire, Ali, que je ressens un malaise, là, ce matin, parce que, je me rends compte que j'apprends plein de choses que j'avais pas appris pendant mon parcours scolaire, puis deux, j'ai de la misère, on dirait, à avaler la pilule, fait que je peux même pas imaginer comment des gens qui portent ce bagage-là encore aujourd'hui font pour pas avoir le petit goût amer en dedans, je vais le dire comme ça. J'ai le goût qu'on parle de ségrégation raciale. On a beaucoup entendu parler, évidemment, du côté américain. Comment ça se traduisait ici?
Oui, donc effectivement, la ségrégation, on l'associe toujours aux États-Unis, mais il y en a eu ici aussi. Pour ce qui est des Noirs, c'était pas nécessairement dans les lois, mais dans les pratiques. C'est-à-dire que des hôtels les reçoivent, d'autres hôtels ne les reçoivent pas. Comme, admettons, le château Frontenac. Jusque dans les années 1940, le château Frontenac refuse beaucoup de Noirs. En 1907, refuse l'intellectuel Benito Sylvain. En 1932, refuse la grande chanteuse Marianne Anderson, qui est afro-américaine, qui va dormir au Clarendon, mais qui va chanter au château Frontenac. Dans les années 1940, refuse, ou du moins... accepte le docteur George D. Cannon, qui est afro-américain, et sa femme, Lillian Mosley, mais on leur interdit de manger dans l'aire commune, dans l'aire de restauration, et donc eux vont aller en cours. Les salles de spectacle, au début du 20e siècle, les Blancs s'assoient par terre et les Noirs s'assoient au balcon, comme au théâtre Lowe's à Montréal. Et le balcon, on appelait ça la cage à singes.
Mon Dieu!
Et à Windsor, en Ontario, on appelait ça the crow's nest, le nid à corbeau. Et donc, pour les Noirs, il n'y a pas de lois ségrégationnistes, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les lois Jim Crow, ce qui rend difficile la lutte pour le mouvement des droits civiques, parce que quand tu as une loi, tu as une prise conceptuelle. Tu peux pointer du doigt cette loi-là, puis dire, écoute, ça, il faut changer cette loi-là, il faut l'abroger, mais quand tu n'as pas de loi, tu te bats contre des attitudes, contre des pratiques, et tu as le fardeau de la preuve à prouver devant les tribunaux que tu as subi des discriminations devant des juges qui très souvent trouvent ces attitudes-là normales. Mais pour d'autres communautés au Canada, on aura des lois discriminatoires, comme admettons la loi sur les Indiens de 1876. Mm-hmm. En 1895, on va passer une loi pour retirer le droit de vote aux Chinois. Les droits de vote les Chinois avaient le droit de vote ici jusqu'en 1895. On leur retire jusqu'en 1947. En 1923, on va passer une loi pour empêcher l'immigration chinoise. Donc, pour d'autres communautés, il y a des lois spécifiques, mais pour les Noirs, il n'y a pas de loi. Et donc, les gens doivent se battre pied par pied, hein, pouce par pouce, mètre par mètre. Oui. Exact. Et donc, ce sont des phénomènes qui ont existé ici aussi.
Quelle est la place de la culture québécoise? Quelle est la place des Noirs dans la culture québécoise? En quoi les Noirs ont contribué à cette culture-là, Webster?
Oui, ben, de par leur présence, c'est-à-dire que déjà, tu sais, on parle beaucoup de musique.
Ouais.
Dès les années 1700, on va retrouver des musiciens noirs, comme Loken qui s'enfuit et qui s'enfuit avec son violon, tu sais, parce qu'il était un très bon joueur. Au 19e siècle, on a des seules images de personnes noires qu'on a ici au début des années 1800 sont en train d'animer une fête au Château Saint-Louis. Et donc, il y a cet aspect musical-là jusqu'au 20e siècle, jusqu'au hip-hop d'aujourd'hui, hein? Jusqu'au 21e siècle même, le soul, on pense à Boule Noire. Mais aussi, tu parlais de l'aspect militaire. Il y aura des Noirs dans nos armées, ouais, ici, au 19e et 20e siècle. Même pendant la bataille des Plaines d'Abraham, il y aura, en 1759, il y aura au moins 33 Noirs dans l'armée de Montcalm.
Ah ouais, OK.
Ouais, qui étaient probablement comme plus en soutien logistique, mais quand même qui sont présents. Donc, il y a une grande et forte histoire militaire noire au Québec et au Canada. Et tu vois, à la Première Guerre mondiale, il y a un bataillon noir qui a été créé, qui s'appelle le bataillon numéro 2 de construction, un bataillon ségrégué parce qu'on ne voulait pas les intégrer à l'armée ordinaire blanche. Donc, on a fait un bataillon ségrégué, mais avant de faire ce bataillon-là, on voulait les envoyer dans le Royal 22e Régiment. Donc, on a failli avoir un régiment noir et québécois, canadien, français.
J'ai envie de terminer en te demandant, Ali, parce que là, on se parle dans le contexte du mois des Noirs, à quel point l'histoire de l'esclavage, l'histoire des Noirs a encore un impact aujourd'hui, selon toi?
Oui, donc pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est effectivement important de se rappeler cette présence et cet impact-là. C'est-à-dire qu'il y a une présence noire ici depuis 400 ans. Et tu sais, moi, toute ma vie, on m'a demandé d'où je viens, tu sais. Je dis, je viens de Limoilou.
Je suis né,
les gens rigolent. Exact. Donc, ça nous permet de comprendre finalement cette présence-là. Et quand on parle de racisme systémique, il faut comprendre l'histoire de l'esclavage. Il faut comprendre l'histoire de ces gens qu'on a marginalisés des sphères de pouvoir, des sphères économiques, et que finalement, ont vécu dans les marges. C'est en comprenant cette histoire-là qu'on peut comprendre le présent aussi. Et finalement, d'avoir une discussion plus posée et plus nuancée sur nos enjeux sociaux aujourd'hui.
Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a pris le mois de février?
Oui, parce qu'au début, c'était la semaine de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et le mois de février, la date de naissance d'Abraham Lincoln et de Frederick Douglass.
Ah, ouais.
Donc, au Canada, on s'est attaché à ce moment-là parce qu'aux États-Unis, ça se vivait déjà, c'est devenu une semaine, ensuite un mois. Donc, c'est un moment en Amérique du Nord où est-ce qu'on peut parler du mois de l'histoire des Noirs ensemble. Et ouais, c'est une histoire qui est transfrontalière aussi. Tu sais, des gens d'ici traversent là-bas, les gens de là-bas traversent ici. Donc, c'est une histoire qui ne s'arrête pas aux frontières. T'sais.
Exact. Est-ce que tu fais encore tes conférences? Est-ce que tu fais encore tes tours guidés de la ville de Québec, dans le Vieux-Québec?
Oui, je donne toujours les tours guidés l'été,
Ouais.
donc environ mai-juin jusqu'à l'automne. Et les conférences, j'en donne encore beaucoup. Je te dirais que là, moi, de l'histoire des Noirs, je suis à deux, trois conférences par jour, là.
Oh mon Dieu.
Puis où est-ce qu'on peut s'informer pour justement avoir ces visites guidées-là avec toi?
Oui, donc il y a mon site internet websterls.ca, websterlimoilousters.ca, ou encore le site internet de mes visites guidées, québechistoriextour.ca. Et si vous me mettez sur Google, là, ça va sortir vite fait.
Ali Ndiaye, alias Webster, c'est toujours un plaisir de te jaser puis d'entendre parler de toutes les histoires que tu as à nous raconter. C'est toujours franchement intéressant. On a l'impression d'être plus intelligent après tes
Hey,
conférences.
oui, mon Dieu!
Ah ben, merci. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment apprécié.
Fait plaisir. Merci beaucoup, Webster.
Bonne journée.
Merci à
Bye-bye.
vous. À plus. Bye.
Ouais. Chaque fois que tu sais que je suis avec quelqu'un puis on parle justement de l'histoire des Noirs, les choses qui se sont passées au Québec et tout ça, il y a tout le temps des gens qui vont m'écrire puis je sais que ça va rentrer, que ce soit présentement, j'ai pas accès à vos textos, mais peut-être plus tard quand ils vont à la réécoute. Yann, tu sais pourquoi je me sens coupable? Mais vous avez pas à vous sentir coupable.
Moi, je suis un grand malaise pour
mais,
être
mais
vraiment
vous n'avez
honnête.
pas à vous sentir coupable. Vous n'êtes pas responsable de ça. Puis si vous avez écouté l'entrevue au grand complet, puis vous pouvez raconter cette histoire-là à d'autres personnes, vous allez faire partie de la solution plutôt que de faire
ouais,
partie
c'est sûr.
Du problème qui a été créé à l'époque.
Mais je pense que ce malaise-là est normal aussi, Yann, dans la mesure où comme ces communautés-là traînent encore ce bagage-là, ben, même s'ils ne l'ont pas vécu directement, ben, à entendre ces histoires-là, je traîne aussi cette culpabilité-là. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans mesure où je pense, puis je dis je ressens pas de culpabilité parce que je pense que tu es responsable de ce que tu fais dans le moment où tu es sur Terre et tu es
exact.
Vivant et présent. Mais je ressens un gros malaise. Puis je vais être transparente avec toi, là, quand on a booké cette entrevue-là, puis ce matin, je lisais encore, puis je préparais, puis tu veux être le moindrement éduqué possible pour diriger, pour poser tes questions. Tu sais, on dirait que j'avais peur de piler sur des œufs, j'avais peur de pas poser les bonnes questions, j'avais peur par mon manque d'éducation à ce niveau-là. De mettre les pieds dans les plats, tu sais. Puis je pense qu'elle est là, notre responsabilité. Tu sais, on parle du mois des Noirs, mais moi, je me suis déjà fait dire « Hey, Audrey, ta seule responsabilité en ce moment, là, comme citoyenne et comme individu vivant, là, c'est de t'informer, c'est de t'éduquer, c'est de lire puis de comprendre ce qui s'est passé puis de t'intéresser à l'histoire.
Ouais,
c'est la seule affaire que
tu as
à faire. »
Mais tu sais, moi, je me souviens de mes cours au secondaire. Tu sais, on avait au centre-ville de Québec, on avait des amis autochtones qui étaient avec nous dans les cours au secondaire. Puis, ils entendaient parler de ce que les hommes blancs avaient fait à leur communauté. J'étais dans la classe, ils étaient à côté de nous autres, puis je me sentais coupable. Puis, à un moment donné, c'est Conrad Sioui, qui était chef ici à Wendake, qui m'a dit, Yann, vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé à l'époque. À l'époque, c'était l'époque. Aujourd'hui, ce dont vous êtes responsable, c'est d'acquérir des connaissances qui vont faire en sorte que ce genre d'histoire-là n'arrivera plus jamais. On a un devoir de se souvenir, mais si on peut élargir notre champ de connaissances, puis après ça, les partager aux autres, ce sera déjà ça. Puis ça, Conrad Sioui, c'est un membre des Premières Nations. Il avait déjà écrit une lettre aussi à ses frères autochtones, aux jeunes, surtout la nouvelle génération, qui sont bien fâchés de ce que l'homme blanc a fait. Il avait dit, gardez-vous une petite... Je la résume très rapidement, là. Il avait dit, gardez-vous une petite gêne. Parce que vous ne l'avez jamais vécu, ce temps-là. Nous
ouais,
autres,
ça.
On l'a vécu.
C'est ça.
Mon père l'a vécu.
De
ne
pas t'approprier non plus
Exactement.
L'histoire, je trouve ça intéressant.
Fait que, Conrad Sioui avait fait voir ce que je suis en train de t'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on a un devoir d'apprendre, on a un devoir de se souvenir, puis on a un devoir d'enseigner par la suite. Mais de s'en vouloir de ce qui s'est passé dans les années 1600, quand Samuel de Champlain est arrivé ici, c'est un non-sens, mais je comprends le réflexe. Mais on n'a pas à s'en vouloir pour ça. On n'était pas là. On n'est pas responsable.
Ah non, t'as raison. Mais tu sais, en même temps, là, tu parles des communautés autochtones, puis ça me fait penser... tu sais, moi, j'ai de la famille sur la Côte-Nord. Je viens de la Côte-Nord, puis la communauté Innu qu'il y a dans le coin de Sept-Îles, de ce que j'entends, parce que là, maintenant, je suis ici, mais il y a encore une certaine rogne par rapport à certains aspects de l'histoire. Il y a encore... ça se fait encore sentir aujourd'hui comme si ça se transmettait, cette frustration-là, de génération en génération. Ce que je peux comprendre d'une certaine façon, là. Mais je pense que c'est ce qui ajoute peut-être au malaise que je vais le prendre sur moi, mais que moi, je peux ressentir ou que les gens peuvent ressentir par rapport aux communautés autochtones ou aux communautés noires quand on parle d'esclavagisme puis de tout ce qu'on vient de discuter finalement avec Ali Ndiaye. Mais Je sais pas. C'est comme, tu peux pas t'empêcher de le ressentir. T'as raison, par exemple. Là, notre bout, le seul bout qu'on a à faire, c'est de s'éduquer, mais c'est comme si tu te dis, Colibine, il me semble que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas logique.
Dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas logique. À l'époque, là.
Ça l'était, t'as raison.
Ça l'était pour eux autres dans leur petite tête de noix, là.
T'as raison. Je sais pas, c'est peut-être. Tu vois, il y a une affaire, puis encore là, j'ai peut-être l'air niaiseuse d'avouer ça de même, là, mais moi, il y a certains films historiques ou certains documentaires qu'on nous a montrés, bon, à l'école, que je peux pas regarder pour le plaisir aujourd'hui, même si j'ai envie de m'éduquer. Je préférerais aller lire que de regarder ça parce que des fois, c'est super bien fait, puis les images, la façon que l'histoire est transmise, ça me brise le cœur. Mon Dieu, je ressens un poids en dedans de me dire que tabarnouche, il y a des gens qui ont vécu l'horreur, là. Puis encore une fois, je sais qu'on peut, on peut rien apporter aujourd'hui, là. Mais je sais pas, j'ai vraiment un gros malaise.
Puis en même temps, tu sais, c'est le fun de jaser avec Webster parce qu'il a poussé ses recherches très loin. Il a étudié en histoire, puis il a poussé ses recherches très loin. Mais quand tu vas dans des livres d'histoire, tu regardes ça, tu te dis, OK, t'as peu, c'est comme ça que ça s'est passé. Puis après ça, tu jases avec des vieux historiens qui disent, non, t'as peu. Parce
des
que là, cette histoire-là a été écrite par les conquérants.
Hey, t'as un point, là, Yann, qui est tellement intéressant parce que là, tu parles des Noirs, mais je vais te parler encore une fois de Wendake puis des communautés autochtones ici.
L'histoire a été écrite par les conquérants. Ça veut dire que si tu avais posé la question de l'autre côté, puis après ça, tu essaies de mettre ça au centre, là, c'est-à-dire d'en prendre, d'en laisser chacun. Bien, tu aurais peut-être plus la vérité dans le centre que si tu fais affaire avec ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite.
Je vous invite, si jamais ça vous tente, puis c'est vraiment trippant comme expérience en passant, Unoa Lumina, dans le cadre de Wendake, Steve Gros-Louis qui est derrière ce projet-là, puis Steve Gros-Louis est un acteur très, très important là, à Wendake, puis j'ai jasé plusieurs fois avec lui. C'est une personne que j'adore vraiment. Puis il m'expliquait ça quand on a fait la visite ensemble parce que j'ai eu la chance. Parce que quand vous faites Unoa Lumina, c'est un parcours lumineux, en fait, qui se fait de soir. C'est magique. Ça se fait autant l'hiver que l'été. Puis t'en apprends sur la communauté autochtone. Puis c'est fou tout ce que t'apprends parce que justement, il y a des affaires qu'il n'y a pas dans les livres d'histoire. Puis Steve m'expliquait, moi j'ai eu la chance de le faire avec lui. Fait qu'il m'expliquait toute la pensée derrière les tableaux, le processus créatif. Puis pourquoi ils ont choisi de mettre certains pans de l'histoire, tu sais, qu'on connaît pas. Puis c'est un peu le point qui m'apportait. Ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est pas notre bout de l'histoire.
Ben, c'est écrit par les conquérants.
C'est la perception, effectivement, des conquérants. Exact. Fait qu'il manque beaucoup d'informations.
Le plus beau tableau que tu as vu en Noa Lumina, est-ce que tu t'en rappelles?
Ben moi, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué.
Ouais.
Il y a le dernier où il y a les chants, puis où on a vraiment comme ils ont créé un ciel d'étoiles, puis on entend les chants de la fille, en fait, de Steve Gros-Louis. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça magnifique. Puis il y en a un autre qui était projeté sur, je pense que c'est le deuxième dans l'exposition, si je ne me trompe pas, sur les roches, là, sur l'espèce de mur de roche, je vais le dire de même, là, dans la nature. Là. Ça, c'est les deux, moi, qui m'ont...
Puis là, les gens sortent de leur maison?
Oui.
C'est ça-là? OK. Moi, ma préférée, là, c'est le guerrier.
Oui,
le guerrier qui est tout seul puis qui danse, je pense que c'est le fils à Steve ou Steve, là, la représentation, mais tout ça. Mais seul-là, je me suis dit, c'est tellement génial qu'il a fait faire ça. Tu sais.
Ah, c'est un partage de culture
tout
exceptionnel.
Tout est noir, ce n'est fait qu'avec des petites lumières, puis tu vois un guerrier danser.
C'est beau, là.
C'est vraiment nice. Fait que quand il fait beau puis il fait pas trop frais, allez faire un tour là. Sur une première date, vous allez se carrer dès
le premier
soir.
Les enfants aussi en famille, là, même si les enfants ne comprennent pas nécessairement
visuellement,
mes gars, là, c'est capoté. Là.
Ouais. Mes gars ont adoré, puis mais c'est ça. Si tu vas là pour une première date, là, tu scores le premier soir.
Ah, assurément.
C'est comme le Wayne Gretzky de la première date. OK, 11h08, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021, 418-971-1021. On revient, les amis. Ah, je sais pas si ma petite pain chaude va s'en sortir.
Elle va bien. Non, mais ça me vire à l'envers, des discussions de même.
Mais ce que j'aime, c'est que t'es une personne qui réfléchit énormément.
Ah, mon Dieu, ça, oui, ça...
Une fois que t'as tes réponses, tu nous les donnes, puis sont toujours très songées.
Ouais.
Fait qu'on se complète bien.
Absolument.
Moi, je réfléchis pas vite.
Non, mais c'est pas vrai, ça. Ne te réduis pas à ce niveau-là. Mais non, c'est vrai, je te donne.
Veux-tu me flatter l'ego un peu?
C'est ce que j'essaie de faire, mais je suis vraiment honnête. Mais je te dis, ce genre de conversation-là me vire un peu à l'envers, puis on refaisait le monde pendant la pause. On continuait nos discussions sur les différences culturelles, notre monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment une montée du racisme, toutes ces grandes questions-là existentielles. Puis je trouve ça super intéressant, mais on dirait que je trouve ça tellement triste en même temps. Puis là, tu sais, sans pousser la réflexion trop loin, là, je veux pas... Mais tu sais, je me dis, maudit, il me semble que la vie est courte, puis maudit, il me semble qu'elle est belle, puis qu'on pourrait en profiter. Puis je trouve ça tellement triste que ce soit des enjeux de société. Mm-hmm. Tu sais, je trouve ça important qu'on ait des grandes discussions, ben puis oui. des grands débats, mais pour moi, ça, ça devrait pas en être un. Puis nos discussions se sont croisées parce qu'on parlait de racisme, mais on est tombé légèrement dans tout ce qui était... tu sais, les gens qui sont contre l'homosexualité, puis le... Puis tu sais, on dirait que... on parlait du fait... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, mais encore aujourd'hui, moi, mon oncle est homosexuel. Puis je fais un parallèle vraiment rapide, là. Ça a toujours été normal. J'ai été entourée très, très jeune de personnes à la peau noire. Ça a toujours été normal. Je me suis jamais posé ces questions-là jusqu'à ce que je devienne assez vieille pour comprendre que, mon tadine, il y avait vraiment des débats de société là-dessus.
Moi, j'étais secondaire.
Mais je trouve ça frappant parce que t'es jeune, t'es une page blanche, tu te poses pas ces questions-là. Il y a une normalité, il y a de quoi de beau à travers tout ça, puis j'ai de la misère à concevoir qu'on vieillit, puis que ben, la balloune nous pète en pleine face parce que c'est encore des enjeux aujourd'hui.
Ouais, l'idée, c'est d'en discuter avec nos enfants, puis je l'ai dit tantôt, c'est pas la première fois que j'en parle, c'est zone. T'sais. Moi, j'ai appris au secondaire que les gars qui étaient avec moi, mes chums, ils étaient différents de moi.
Oui.
Il y avait des Chinois là-dedans. Il y avait des gens qui avaient, qui avaient une couleur très foncée. Puis à un moment donné, j'ai entendu le N-word au secondaire. J'ai dit, mais c'est quoi l'histoire? Là?
C'est quoi ce verre-là? Là?
Quoi, tu l'écœures? Puis après ça, ça se battait à l'école parce que le gars n'était pas content de se faire traiter avec le N-word. Puis l'autre, ben, il voulait montrer que l'autre, c'était un N-word, puis un N. Puis il allait montrer comment ça fonctionnait. Mais c'était des gens des banlieues. Nous autres, au centre-ville, là, on avait le quartier chinois à l'époque qui était coin Saint-Joseph puis coin Saint-Vallier. C'était... T'sais, les Chinois, c'était notre chum, c'était des enfants. On était des enfants. Rendus au secondaire, les jeunes des banlieues sont descendus. Puis là, eux autres, ils n'étaient pas habitués de côtoyer justement ces communautés-là. Puis la guerre pognait, là.
Non, je trouve ça épouvantable.
À 16h, là, il y a des gens qui allaient se battre.
Au Rakabessic.
Au Rakabessic. Ça dépend où t'es né, tu sais. Les gens qui sont nés à côté des réserves, là. Les réserves, là, tu sais, ils ont des problématiques, là. Des fois, les Autochtones sortent de là, puis ils s'en vont prendre de la bière ailleurs, puis ils se battent, puis ils agissent pas bien. Puis là, les gens disent, ouais, mais là, nous autres, on est écœurés, là. Les Autochtones viennent ici, puis ils sèment le trouble. Mais.
C'est une généralité pour un cas.
Mais tu comprends, c'est parce que tu habites à côté d'une réserve, puis eux autres, ils ont un problème. Ces gens-là qui sont venus dans ton coin, il y avait des problèmes avec la boisson, ils deviennent fous.
C'est ça, on manque de compréhension. Je trouve que ça revient au fait qu'on manque un peu d'humanité, de compréhension, de discussion. Puis c'est ce que je retiens de la jasette qu'on a eue avec Ali NDI, puis vous allez l'avoir en passant autant sur YouTube que sur nos plateformes. Mais on ne jase plus. Ouais.
Te faire dire, coudon, tu viens d'où, toi? Alors que lui, il est né à Limoilou.
Tu sais.
Il est chez eux.
Mais oui. Mais je trouve ça complètement capoté. Puis c'est qu'on se nourrit des préjugés puis des stéréotypes au lieu d'ouvrir une discussion puis de poser des questions. Puis je trouve ça franchement poche, là. Mais en même temps, on est tous coupables à un niveau ou à un autre. Puis ça fait réagir parce qu'il y a bien des textos qui rentrent au 88-971-102.
Ouais, des gens qui me disent que, bon, il y a une montée du racisme. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a pas de montée du racisme. Il a toujours été là, blablabla. Avec l'arrivée des nouveaux arrivants, là.
Mm-hmm.
L'arrivée des nouveaux arrivants. L'arrivée des immigrants,
oui.
Qu'elle soit légale ou illégale, cette immigration-là. Le fait qu'il y a des gens qui aient de la misère à se loger, puis qui se disent, coudon, c'est à cause qu'on a accueilli trop. C'est suffisant pour repartir une guerre avec eux.
Mais oui, mais oui, mon Dieu, ça n'a même pas de sens. Tu vois beaucoup de textos qui entrent ici. Il y a Tania qui nous dit « Je suis autochtone élevée hors réserve. Je me chicanais avec mes profs d'histoire
ben oui.
pour rétablir certains faits. » Elle dit « Un film incroyable, Cheval indien, pour comprendre une certaine époque, les pensionnats et compagnie. Après ça, on a Alexandre qui nous dit, bon, vraiment intéressant l'entrevue, je vous la rends disponible dans quelques minutes.
Yes! Un gros merci, Audrey. Je te souhaite de passer une super de belle journée en pantoufles.
Oui, apparemment.
Et pyjama.
Ben, Yann, il faut apprendre à être heureux dans la vie. J'avais juste le goût de ça ce matin. Si je m'étais mis en robe, j'aurais été malheureuse.
Tu sais que quand je vais à l'épicerie, là, j'essaie de pas dire un mot, là, mais des fois, j'ai tout le temps le goût de dire, oh boy, il y en a une qui est pas fière ici, pantoufles, pyjama, pour venir à l'épicerie.
Ah, mais ça, je suis pas de même, par exemple.
Tabac.
Non, mais ici, on est en famille, à la station.
Ça arrive à moitié habillé.
T'es en train de me dire que tu me juges, là?
Un peu.
C'est ça que tu me dis?
Okay. Le professionnalisme?
Oh, franchement, Yannick Marceau.
Ça se perd!
Ça va être correct, là. C'est vrai que j'ai toujours des 5 sur 5 là, pour mon habillement. Je l'échappe une fois semaine. On a le droit de l'échapper une fois semaine?
Quoi, t'as toujours des 5 sur 5 sur ton habillement?
Mais je m'habille bien dans la vie. J'ai une super
mais
belle garde-robe.
Mais qui te donne 5 sur 5?
Mais les boss, là.
Je comprends pas.
Ben, dans notre évaluation, on a une partie de l'évaluation qui est destinée justement au professionnalisme visuel.
Ah oui, j'ai
je
eu ça aussi.
Comme ça.
Ben, j'ai eu deux, par exemple. Là,
ben, c'est ça.
Deux sur cinq.
Fait que tu peux pas juger, j'ai un cheat day et il est aujourd'hui.
Il paraît que les boss sont pas là. OK, salut, Pascal CV s'en vient. Voici Bob Bissonnette, Université sur Boulevard. T'as pensé, j'ai déjà été à